J'aimerais revenir ici, c'est dans la première épître de Pierre. Je lirai encore depuis le verset 17, quand il dit, Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Première chose, je m'arrête déjà ici pour faire remarquer quand il dit, ce n'est pas par des choses périssables, de l'or, et puis il vient par de l'argent ou de l'or, et pourtant, l'or et l'argent, moi je ne sais pas, mais j'ai jamais vu que, pourtant, ouais, ça dure, hein. On retrouve des vieilles choses là, enfouies dans les mers ou n'importe où, qui étaient en or, mais l'or, il est toujours là, il est toujours de l'or. Il semble que c'est une matière impérissable. Il semble. Mais Dieu dit que c'est périssable. Parce que c'est périssable, ça ne peut pas. Il y a quelque chose qui est impérissable, et c'est par ce moyen-là, comme il va le dire, ce qui est impérissable, c'était la vie, c'était, oui, la vie qui était manifestée en Jésus-Christ. Elle est impérissable, c'est pour la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit, il met l'eau, il oppose ce qui est périssable, eh bien, on peut prendre n'importe quel moyen, je ne sais pas moi, des prières, des jeûnes, des pèlerinages, quoi que ce soit, vous pouvez dire, oh, il a fait une grande œuvre, il a fait une grande œuvre, il mérite bien. Il ne mérite rien, c'est périssable. Mais le sang de Jésus, ça, c'est ce qui est impérissable. Donc il dit, vous savez, ce n'est pas, c'est verset 18, par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Parce que le problème, c'est qu'on soit délivré, racheté, ça veut dire qu'on ne soit plus esclave. On ne soit plus esclave. Si on nous rachète, c'est parce qu'on est vendu. Je veux dire, nous étions vendus au péché. Et nous avons hérité de nos pères, c'est depuis Adam. Tout simplement, depuis Adam. Nous avons été vendus du temps d'Adam et d'Ève, nous avons été vendus à l'adversaire. Mais voilà l'œuvre extraordinaire, c'est que nous avons été rachetés et nous ne sommes plus, nous n'appartenons plus à Satan, nous n'avons rien à faire, nous ne lui devons rien. Du tout, nous devons tout à notre Créateur. C'est notre Créateur lui-même qui nous a rachetés. Seulement, le Créateur a dû faire quelque chose de nouveau. Le Créateur a dû devenir l'un d'entre nous. Il a dû devenir le Fils. C'est pour ça que dès le début, il a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'était cette postérité qui devait être manifestée en son temps, et comme il était destiné justement pour nous racheter, le prix, c'était la vie même qui devait être donnée. Il fallait que Dieu puisse donner son fils à celui qui croit. Du moins, il fallait qu'il puisse l'offrir. Il fallait que le fils soit d'accord d'être offert en sacrifice, de mourir pour la personne qui allait le recevoir. Évidemment. Et c'est le prix, c'est à ce moment-là, si ce don de Dieu, d'ailleurs c'est pour ça que l'Écriture que l'on connaît bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça, c'est une vie impérissable. En Jésus-Christ, je veux dire, Jésus-Christ a dû quitter cette terre parce que il avait achevé son temps, comment est-ce qu'il faut dire, son temps d'homme venu pour l'expiation, mais il va revenir, comme le vainqueur, comme le roi des rois. Et il doit revenir dans cette vie, mais c'est cette vie-là qu'il a voulu donner. Donc il dit, c'est pas par de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions héritée. Ça, cela venait automatiquement, c'était cette vie. Elle se transmet, c'est notre... Oui, c'est notre caractère, c'est notre nature, c'est hérité de nos pères depuis Adam. Depuis qu'il y a eu la chute, mais nous sommes tous des gens qui sommes des perdus. Mais en Jésus-Christ, dans la nouvelle naissance, c'est pour ça que le diable, il fait vraiment, il empêche les gens d'arriver à croire qu'il faut qu'ils naissent de nouveau d'en haut. Il faut qu'ils aient une expérience spirituelle avec le Créateur des cieux et de la terre, avec la parole que ce Créateur a dite. Il faut qu'ils aient une expérience, qu'ils fassent une rencontre, et qu'ils acceptent l'autorité de cette parole, de cette personne. En acceptant l'autorité de Jésus-Christ, on accepte l'autorité de Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu, mais seulement je dois accepter l'autorité de ce Fils, c'est pas un autre. On dit, oh, moi je crois dans le Père, mais sinon ça ne vous servira à rien du tout. Parce que celui qui a donné sa vie, celui qui a versé son sang, c'est le Fils. C'est Dieu, en tant que Dieu, il ne pouvait pas verser son sang. Il a fallu qu'il devienne un Fils pour que le sang soit versé, pour que cette vie soit donnée, qu'elle soit répandue, qu'elle soit vraiment offerte et qu'elle soit vraiment... Elle était offerte selon la volonté de Dieu, et celui qui accepte le don de Dieu, eh bien, il entre dans la volonté de Dieu, et il est béni dans ce sens, parce qu'il y croit, il accepte la parole, il accepte que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu, c'était, Dieu ne voulait pas que l'homme reste loin de lui, perdu. La volonté de Dieu, c'était qu'on soit racheté, et qu'on soit ramené à une communion parfaite avec lui. Ça, c'est la volonté de Dieu, et elle était exprimée par le don de son Fils. C'est Dieu qui nous a donné son Fils. Seulement, c'est moi qui dois accepter que c'est par Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés, sinon le nom de Jésus, parce que c'est le seul qui a pu payer le prix. Et le prix, c'était son sang, c'était sa vie. C'est pour ça que c'est la vie éternelle. C'est pour l'éternité. Il faut que le croyant considère bien ces choses-là. Parce que nous sommes appelés on peut pas sonder maintenant la grandeur de ce que Dieu veut faire avec nous. Que Dieu a décidé de faire. Et pourtant, c'est tout simple, c'est que Dieu a voulu qu'on retrouve cette communion de fils avec notre Père. Mais elle ne peut s'exercer, elle ne peut se manifester en nous que par notre communion personnelle avec le Fils que Dieu nous a donné. Amen. Avec l'acceptation du don de sa vie. Et alors, il y a des chrétiens, mais ils ne veulent pas croire qu'ils ne s'appartiennent plus, mais qu'ils appartiennent à celui qui les a rachetés. Ils veulent bien ne plus appartenir au péché, mais ils veulent pas se donner au Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne peut pas être délivré de sa nature pécheresse si on n'accepte pas la vie qui nous délivre de ce de cette nature, comme c'est écrit ici. Il nous a nous avait été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est pas de l'argent, c'est pas de l'or. Mais verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et là encore, j'aimerais peut-être lire le passage, je l'ai noté, c'est dans Jean, c'est des passages qu'on connaît quand même, Jean, peut-être Jean 1, il dit, première chose, au verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, ça c'est Jean-Baptiste, et il dit, donc c'était le prophète, celui qui le précurseur, celui qui devait présenter le don de Dieu, donc c'est lui Jean-Baptiste qui présente le don de Dieu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'en rendis ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, premièrement, le témoignage premier qu'il donne, c'est que voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte. Parce que pour les Juifs, ils avaient quand même eu les ombres. Ils avaient eu les sacrifices en ombre. Le sacrifice de Jésus était représenté par les sacrifices et principalement par l'agneau, agneau pascal. C'était l'agneau pascal qui leur permettait d'être bénis toute l'année. Mais c'était pour une année. Et à chaque année, il fallait renouveler le sacrifice de l'agneau pour qu'il soit couvert pour une année. Et alors, maintenant, il fallait qu'il leur présente. Maintenant, qui est cet agneau? Qui va leur donner de pouvoir vivre, de pouvoir marcher avec Dieu, de pouvoir demeurer dans l'héritage que Dieu leur a donné? Qu'est-ce qu'il va leur donner? Qui c'est qui va les conduire? Et là, c'est la première chose qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est-à-dire que il vous rend libre pour que vous redeveniez propriétaire de l'héritage que Dieu a donné à Abraham. Il y a d'autres passages qui nous montrent bien que c'est pas par la loi, elle est venue 400 ans plus tard, que l'alliance que Dieu a faite, il l'a faite avec Abraham. Parce que Dieu l'a faite avant qu'il existe la loi. Parce que Dieu voulait qu'Abraham soit le père de beaucoup de nations. Soit le père des croyants de beaucoup de nations. Et c'était pour que le don de Dieu, le fils promis même à Abraham, était une image. Abraham, lui, même son fils, il a offert, à un certain moment, il lui a été demandé comme offrande, c'est vrai, il l'a offert sur l'autel, il était prêt, il a levé le couteau, il voulait le sacrifier en réponse à l'appel de Dieu. C'était aussi une image du sacrifice. Mais premièrement, c'était une image d'un fils que Dieu avait promis. Il avait promis un fils. Malgré qu'ils avaient été, on peut dire, trompés, qu'ils ont pensé qu'avec la servante, Sarah, elle a pensé qu'avec la servante, eh bien, elle aurait le fils, parce qu'elle n'arrivait plus à croire que c'était possible par elle. Elle pensait qu'elle n'arriverait pas à elle. Mais ça, c'est aussi une image que l'homme est tellement... Il dit, non, c'est pas possible. On est devenu trop, je sais pas moi, trop incrédule. On a manqué. Non, même... Même à la fin, ça peut être manifesté, cette vie nouvelle. Puisque c'est quand même tout à la fin que l'épouse doit être présentée. Il y aura une épouse pour le temps présent. On dit, oh, vraiment, il n'y en a pas qui sont arrivés à la perfection encore. Mais ça n'empêche pas que Dieu a promis. C'est pas une dénomination qui va être parfaite. Il n'y aura pas de dénomination parfaite. Ah oui, cette église-là. Mais il y aura des croyants qui sont arrivés à la mesure, qui sont des disciples de Jésus-Christ, qui sont avec lui, attachés à lui. Et ils sont peut-être dans des groupes différents, mais ils ont le même esprit, la même adoration, la même louange, le même service. Évidemment, quand le Seigneur les rassemble, évidemment qu'ils seront tous un pour être enlevés, hein, pour entrer dans le corps de résurrection. Quand ils entrent dans le corps de résurrection, à ce moment-là, ils vont être un seul, une seule épouse. Mais ça doit être manifesté qu'il y a une épouse arrivée à la perfection. Mais là, donc la première chose qui était manifestée, voilà l'agneau de Dieu qui ôte. C'est pas un prix qui pouvait ôter, je veux dire, c'est pas de l'or, de l'argent, c'est pas des œuvres, c'est pas des prières, non, c'est rien de ces choses-là, c'est quelqu'un qui donne sa vie. Et un seul pouvait donner sa vie, c'était Jésus-Christ. Alors c'est sa vie qui nous rachète. C'est le don de sa vie. Le sang, c'est la preuve que la vie a été donnée. Pourquoi c'est le sang? Ça, c'est une preuve qu'il y a eu la séparation entre la chair et le sang qui coulait dans le corps. Il y avait un corps, évidemment, c'est le corps, c'est lui qui a dit, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Mais alors, la preuve que la volonté de Dieu a été faite, c'est quand son sang a été versé et que même Dieu a voulu que le centenier le transperce de sa lance, transperce le cœur, et il est sorti encore une dernière goutte de sang et de l'eau. C'était la preuve absolue que tout le sang, toute la vie avait été donnée. C'était le fait que toute la vie a été livrée, c'est de ce fait-là, c'est là le prix du sang. C'était la délivrance parce que la vie a été donnée. Donc notre foi à nous, c'est de croire dans ce sang qui a été donné, dans cette vie qui a été donnée. C'est parce que la vie de Jésus a été donnée, eh bien, en retour, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, comme dit Paul, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alors nous le voyons ressuscité, nous le savons, nous le croyons qu'il est ressuscité, mais premièrement, mort, et nous-mêmes on se voit mort, et puis alors la puissance de transformation de l'Esprit de Dieu peut venir habiter le Saint-Esprit. Parce que ça c'est le deuxième point. Vous remarquez ce qu'il a dit ici? Il lui a dit, verset 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise le Saint-Esprit. » Et j'ai vu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, premièrement, il est celui qui donne sa vie, qui donne son sang jusqu'à la dernière goutte, qui nous rachète de la nature héritée de nos pères, du péché qui a été mis en nous dans nos pères, Adam et Ève. Et puis, la seconde chose, c'est que ce qu'il veut, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il faut que Jésus a dit, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse que le Père avait faite. C'était important. Et là, il a dit, je ne le connaissais pas, c'est assez Jean-Baptiste. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Il savait bien qui l'avait envoyé baptiser d'eau. Alors, celui-là, il a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre. Et il a vu, et il a rendu témoignage. Quand Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, il fallait que, vous voyez, il fallait que Jean-Baptiste d'abord, il apparaisse, qu'il apporte son témoignage, et qu'il rencontre Jésus, et qu'il annonce, voilà l'agneau de Dieu, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis alors, c'est lui qui a pu dire, c'est lui, moi, je vous baptise dans l'eau, il a dit quelque part, moi, c'est tout ce que je peux faire. Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. C'est lui, c'est pas moi. On pourrait dire de nos jours, il ne faut pas croire que c'est William Branham qui va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Ça n'a pas changé. C'est la rencontre avec l'agneau de Dieu, l'acceptation de Jésus comme notre agneau qui ôte, qui paye le prix, qui ôte notre péché et qui fait la place en somme pour que le Saint-Esprit puisse venir, qu'il puisse nous baptiser du Saint-Esprit. Donc c'est le même qui ôte le péché, c'est le même qui donne le Saint-Esprit. Amen. Le prophète, il est là pour annoncer la nouvelle. Mais il a baptisé d'eau, mais il a dit l'eau, c'est l'eau. Donc, le Saint-Esprit, ça c'est autre chose. Je veux dire ça. Ça vient d'en haut. Ça vient du ciel. L'eau, ben, c'est la terre. En signe qu'on est. Quant à la terre, on est mort pour cet héritage que nous avons hérité d'Adam, qu'on n'appartient plus à cet héritage, mais quand le Saint-Esprit vient, alors c'est la nature du Fils de Dieu qui peut se manifester en nous. C'est glorieux quand on voit les choses, quand on peut les considérer. Donc, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, et puis, oui, et ça, je l'ai déjà dit, c'est vrai que Jésus est venu que le quatrième jour, non, combien? Quatrième, hein? Il est resté deux jours. On est le deuxième jour. Donc, il est arrivé le quatrième. C'est vrai. Il y a eu quatre jours avant la venue du Messie. 4000 ans. Et puis, 2000 ans ont passé maintenant. Mais c'était quand même déjà les derniers jours, hein? Il n'en restait plus que deux. Si quatre avaient passé, ça fait quand même plus que deux. Mais maintenant, on est à la fin des derniers jours. Maintenant, on est vraiment à la fin, parce que c'est à la fin que l'épouse doit être manifestée, qu'elle doit être rassemblée dans un même esprit, dans une même communion, une même... un même corps, un seul corps en Jésus-Christ. Il doit former un seul corps spirituel, pas un corps d'organisation, parce que ça, c'est l'imitation du diable qui voudrait nous... Il veut faire de nous tous des catholiques. Hein. Puis les protestants, vous croyez qu'ils feraient quoi? S'ils pouvaient, ils feraient tous des protestants. Mais oui, tous, s'ils pouvaient, ils voudraient faire des membres de leur église à eux. Parce que Dieu, ce qu'il veut faire de nous, il veut faire de nous tous des fils de Dieu. Parce que c'est écrit que Jésus est le premier-né d'une nouvelle création. Il est seulement le premier. Il y en a beaucoup qui viennent après et qui doivent être manifestés. Évidemment que c'est à la résurrection qu'ils vont être manifestés. Mais quand même, puisqu'il y a une parole qui dit qu'il va se présenter à lui-même une épouse, il a mis épouse, sans tache ni ride. Ça veut dire qu'il y a encore un ministère de Christ au travers de son épouse. C'est une manifestation de l'Esprit du Christ dans, au travers de son épouse. Parce que c'est lui qui doit nous racheter par son sang, qui doit nous amener à la foi dans l'œuvre qu'il a faite à Golgotha, par le don de sa vie et à être rempli de cet esprit, c'est lui qui doit nous amener à être une nouvelle création qui a l'esprit, qui a les pensées, qui a le même amour pour Dieu et pour le royaume de Dieu et pour les créatures de Dieu. C'est vrai? Donc, on dit toujours, oh, mais les chrétiens devraient s'aimer, devraient aimer le monde. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est possible en Jésus-Christ. C'est sa nature, c'est seulement par sa nature que c'est possible, pas autrement. Autrement, bon, si on n'est pas changé, il faut qu'il y ait un changement. D'abord un rachat, et puis être rempli de cet esprit nouveau. Donc, prédestiné avant la nation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc notre foi et notre espérance. La différence entre la foi et l'espérance. La foi, je crois qu'une chose a été accomplie. L'espérance, j'attends une chose qui n'est pas encore accomplie, mais qui est promise. Mais c'est avec foi que j'attends l'espérance. Mais la foi, foi toute seule, la foi, je dis, c'est la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et je le crois. Et je le crois, et je crois qu'il a combattu, je crois qu'il était victorieux dans le combat, je crois qu'il a écrasé la tête du serpent, qu'il est véritablement ressuscité, qu'il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre, qu'il va revenir, ça c'est l'espérance. Il va venir pour chercher son épouse. Mais j'ai foi qu'il a tout ce qui devait être fait pour faire de moi un fils de Dieu est déjà fait. Je sais bien qu'en quelque mesure, j'espère que bientôt, vraiment, la manifestation finale sera manifestée. C'est de l'espérance. Mais c'est dans la foi que je me tiens, dans la foi que ce que le Seigneur a manifesté à Golgotha doit être manifesté dans l'épouse. D'ailleurs, le Seigneur a dit, on connaît la parole, ce que moi je fais, vous le ferez vous aussi. Mais qui c'est qui va faire? Mais c'est l'épouse. C'est l'épouse. Bon, mais oui, mais l'épouse vraiment inspirée, conduite, remplie du Saint-Esprit, puisque c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. De qui est-ce que je reçois le Saint-Esprit? Mais c'est de lui. Alors, qui est le Saint-Esprit? Mais c'est lui. Mais seulement c'est lui en moi. C'est pas avant il est venu dans la chair, dans le corps de Jésus de Nazareth. Et puis il a dû mourir dans ce corps, la mort a séparé la chair du sang, le sang a été répandu, la mort physique a été manifestée, le sang a été recueilli par Dieu pour l'expiation, pour le prix. Et nous sommes bénéficiaires de cette vie par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est à cause du sang qui était recueilli par Dieu, de la vie de Jésus qui était recueillie, pour la remettre en nous, pour la remettre dans l'épouse. Voilà. C'est pas compliqué? Non, c'est pas compliqué. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. C'est là que je voulais faire. On voit bien, il y a la foi, il y a tout ce qui est fait, qui est accompli, c'est fait en Jésus-Christ, c'est fait, c'est accompli, le rachat a été payé. Il n'a rien besoin de rajouter. La seule chose, c'est que le baptême du Saint-Esprit soit manifesté en nous. Mais c'est lui encore, c'est lui qui va le manifester. Et puis, alors c'est pour ça que, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, c'est-à-dire que, on ne peut pas avoir un amour fraternel sincère si on ne peut pas obéir à la vérité. Parce que la vérité, c'est que moi, j'avais besoin de naître de nouveau pour avoir l'amour. Pour avoir l'amour qui était en Jésus-Christ, j'ai besoin que lui vienne en moi. Alors, mais seulement cela doit se manifester, cet amour fraternel. Et c'est ça que le monde attend de voir, ils verront. Il faut que le monde voit qu'on a un même amour, même compassion, même miséricorde, et qu'on leur apporte l'évangile malgré leur opposition. Mais oui, malgré l'opposition qu'ils peuvent offrir, eh bien qu'on l'apporte, on leur dit non, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis Dieu vous invite, il n'y a que ce moyen, il y a un seul qui peut vous sauver, qui peut ôter le péché et vous donner une vie nouvelle, vous baptiser du Saint-Esprit. Donc, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce qui fait, disons, ce qui donne la possibilité aux croyants de s'aimer les uns les autres de tout leur cœur, c'est parce qu'ils ont été régénérés. S'ils ne sont pas régénérés, c'est que, oui, c'est un désir d'amour philéo, comme on dit, hein? Mais l'amour agapao, c'est le Saint-Esprit qui met l'amour qui était en Jésus-Christ. C'est pas seulement filéo. Non, c'est un vrai amour jusqu'à donner sa propre vie. Celui qui aime, il peut donner sa vie. Si bien que même si les croyants meurent, parce qu'ils sont fidèles dans leur témoignage, mais pour eux, c'est pas, ils ont la vie éternelle. Je veux dire, le monde peut se réjouir, il y a toujours ça de moins, mais tous ceux-là qui vont disparaître, ils vont ressusciter. Alors, ils ne sont pas disparus, c'est seulement pour un temps, c'est pour les yeux du monde. Mais nous sommes appelés justement à être régénérés, et il est bien dit, c'est pas par n'importe quoi, c'est par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je ne sais pas, mais moi, d'après ma connaissance, quand il est dit permanente, combien de trous est-ce qu'il y a dedans? Ce qui est permanent, il y a des trous ou pas? Hein? Elle est vivante et permanente, c'est écrit. Donc cette foi-là doit être manifestée. Nous sommes appelés à cela. Donc nous avons été régénérés par cette semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est-à-dire que l'homme, même s'il est devenu très instruit, il a même été, il est, disons, de plus en plus civilisé, dans ce sens-là, de toute façon, il va disparaître. Il va disparaître. C'est pas sa grande sagesse qui va le faire rentrer dans le royaume des cieux. Mais la parole qu'il a reçue, c'est là la différence. Mais la parole, verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et c'est vrai qu'en ce temps de la fin, c'est l'Évangile du début qui doit être apporté, qui sera certainement apporté. Il semble de plus en plus maintenant, même dans les dénominations, on se tourne, on réalise que c'est vrai parce que chacun a son évangile, et puis ça porte quoi? Ça fait que des religions, ça fait de l'opposition. Mais quand c'est véritablement le Seigneur Jésus-Christ, comme il est présenté dans la Bible, qui est présenté et quand il est exigé du croyant de se considérer comme mort à lui-même et comme vivant pour lui, s'il n'y a pas cette exigence qui est présentée, ce n'est pas le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est que oui, j'étais mort dans mes péchés, mais maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Ça, il faut qu'on en arrive là. Et c'est une position, c'est question d'une position permanente. C'est une parole qui est vivante et permanente et qui était là, qui nous maintient dans cette communion avec le Seigneur. Et c'est ainsi que l'épouse sera achevée par cette parole révélée. Révélé au temps de la fin, c'est vrai. C'est pour ça que, quand même, ça fait un moment que le Seigneur a révélé cette parole au travers de ce prophète. C'est quand même, c'est cette parole qui a été révélée, mais il faut seulement que le croyant entre, prenne pour lui-même cette parole révélée de la Bible, qu'il considère vraiment, qu'il dise, ben, c'est bien écrit, c'est que ça. Oui. Et on a toutes ces prédications que Dieu a permises que nous ayons à disposition. Elles servent justement à nous maintenir et à nous faire progresser, pas que ce soit une connaissance intellectuelle, mais une communion intime à cause des vérités bibliques, à cause de cette vérité que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Peu importe ce qui peut nous arriver, c'est que le Seigneur, c'est lui qui nous conduit. Et puis, quand le moment vient qu'on soit manifesté, quand on va ressusciter, ben, on va être là. Amen. C'est pas important, même si on meurt tôt ou tard, ça, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que on meurt dans la foi. L'important, c'est qu'on arrive vraiment à demeurer dans cette foi-là chaque jour. Que Dieu soit béni, que Dieu nous dispose vraiment nos cœurs à être à sa disposition et que lui-même puisse confirmer que nous sommes en accord avec lui. Et alors, si on reconnaît l'arbre à son fruit, si on est en accord avec lui, on va porter les mêmes fruits que lui a portés. Amen. Nous allons nous lever maintenant et demander la bénédiction du Seigneur.